Extrait des chroniques du hors-temps. Une propulsion par déformation de l'espace. L'espace n'était pas plat, mais courbe. Si on imaginait l'univers comme une large membrane, sa surface aurait une forme incurvée. Davantage peut-être qu'une membrane, c'était comme une bulle close. Si certaines régions de la membrane pouvaient en effet paraître plates au premier abord, la courbure de l'espace était toutefois omniprésente. Lors de l'ère commune, un très grand nombre d'hypothèses ambitieuses avaient été proposées pour naviguer dans l'espace. L'une d'elles suggérait de plier l'espace. L'idée consistait à élargir la courbure et la plier en deux, comme on plierait une feuille de papier, afin que les deux extrémités de la feuille, c'est-à-dire des régions à l'origine distantes de plusieurs millions d'années-lumière, se touchent. Ce procédé ne pouvait pas, à proprement parler, être qualifié de navigation spatiale, mais plutôt de halage spatial, car on ne voyageait pas vers sa destination, on attirait la destination à soi, grâce à une déformation de l'espace. Il fallait être Dieu pour pouvoir aspirer l'univers de cette façon, quoique, si l'on tenait compte des limites fixées par les théories fondamentales, ce fût un défi insurmontable, même pour lui. Il existait à ce sujet des propositions plus modérées et plus spatialement restreintes. Si un vaisseau spatial pouvait, d'une manière ou d'une autre, repasser, comme un fer, la partie de l'espace située derrière lui et réduire ainsi sa courbure, il pourrait être tiré vers l'avant par une partie de l'espace plus courbe. Cette idée constituait le principe de base de la propulsion par courbure. Contrairement à la technique qui suggérait de plier l'espace, la propulsion par courbure ne permettait pas d'atteindre une destination instantanément, mais de naviguer sans fin à une vitesse proche de celle de la lumière. Mais jusqu'à ce que le message de Yun Tianming se retrouve correctement interprété, ce type de propulsion par courbure était demeuré à l'état de simple fantasme, comme des centaines d'autres hypothèses tout aussi chimériques sur le voyage à la vitesse de la lumière. Nul ne savait s'il était possible, tant à un niveau théorique que pratique. Tout est moustillé, A.A. dit à Chung Sin. Avant l'ère de la dissuasion, la mode était aux vêtements avec des images animées. En ce temps-là, les gens avaient l'air de s'habiller avec des guirlandes, mais il n'y a plus que les enfants qui portent ça aujourd'hui. Nous sommes revenus à la mode des habits traditionnels. Mais ses yeux disaient tout autre chose. Son regard s'était assombri. L'interprétation paraît crédible, mais c'est impossible à prouver. Nous n'obtiendrons sans doute aucune confirmation. Ce qui me surprend le plus de nos jours, c'est qu'il n'y a plus aucun bijou ni aucune pierre précieuse. L'or est devenu un métal ordinaire et rien que nos verres ici sont faits en diamants. Tu sais, à mon époque, avoir un tout petit diamant, c'était un luxe que beaucoup de filles ne pouvaient pas s'offrir. Ses yeux disaient « Non, A.A., cette fois c'est différent, nous pouvons le prouver. » Au moins l'aluminium était moins cher. Avant l'invention de l'électrolyse, c'était un métal précieux. J'ai même lu quelque part que les couronnes des rois anciens étaient faites en aluminium.
Comment ?
Chung Sin savait que cette fois son regard ne suffirait pas. Le CRD avait proposé d'équiper son appartement d'une chambre anti-intellectron, mais cela aurait nécessité l'installation d'un équipement de gros volume très bruyant et elle avait refusé. Elle le regrettait aujourd'hui. « Le papier de vague neigeuse, » dit doucement Chung Sin. Les yeux sombres d'A.A. s'illuminèrent. Il brûlait d'une excitation plus grande encore.
« Ne peut-on pas aplatir cette feuille avec autre chose ?»«
Non, seule l'obsidienne de Erxingen Mosiken en est capable. »
Une horloge sonna dans un coin de la chambre. Améthéré leva la tête, il ferait bientôt jour. Il jeta un regard sur son papier de vague neigeuse dont la portion aplatie sur le sol n'était pas plus large que sa paume. C'était loin de suffire pour peindre le portrait de chat d'aiguille. Il lâcha le fer et soupira.
Un rouleau de papier, dont une portion était passée au fer à repasser pour diminuer sa courbure.
Cette image était une allusion claire à la différence d'état de l'espace avant et après la propulsion par courbure. Cela ne pouvait pas être autre chose. « Allons-y, » dit Cheng Xin en se levant. « Allons-y, » répéta A.A. Elle devait se rendre dans la chambre anti-intellectron la plus proche. Deux jours plus tard, à l'occasion d'une réunion du CRD, le président partagea avec les responsables d'unité l'interprétation de la propulsion par courbure. Yun Tianming informait la Terre que c'était en déformant l'espace que Trisolaris pouvait voyager à la vitesse de la lumière. C'était un rapport stratégique de tout premier ordre. De toutes les hypothèses jadis avancées portant sur le voyage à la vitesse luminique, il établissait que celle de la courbure spatiale était possible. L'humanité avait désormais une direction claire dans laquelle développer ses technologies de voyage interstellaire. C'était un phare allumé dans une nuit d'encre. Tout aussi crucial était le fait que cette interprétation fournissait le mode avec lequel Yun Tianming dissimulait ses informations dans les trois histoires. On pouvait distinguer deux méthodes, les métaphores à double couche et les métaphores bidimensionnelles. Les métaphores à double couche ne pointaient pas directement vers l'information réelle, mais vers quelque chose d'encore plus simple. Ce à quoi se référait la première métaphore orientait vers une seconde métaphore, qui était celle qui dissimulait l'information. Dans cet exemple, le voilier de la princesse, le savon de Herxingen Mosiken et la mère des Taotiers formaient une même métaphore pour un voilier de papier propulsé par du savon. Et c'était dans un second temps que ce voilier se révélait être une métaphore pour la propulsion par courbure. L'une des raisons qui expliquait les échecs des tentatives précédentes de décryptage reposait sur l'idée, erronée, qu'une métaphore ne possédait forcément qu'une seule couche, et que c'était les histoires elles-mêmes qui contenaient l'information. Les métaphores bidimensionnelles s'appliquaient quant à elles à lever les ambiguïtés provoquées par l'usage d'un langage littéraire. Après la constitution d'une métaphore à double couche, on adjoignait une métaphore à une seule couche pour confirmer le sens de la métaphore précédente. Dans cet exemple, le rouleau de papier de vague neigeuse et le fer à repasser servaient de métaphore au changement d'état dans l'espace lors de la propulsion par courbure, confirmant ainsi la métaphore du voilier à savon. Si l'on voyait l'histoire de Yun Tianming comme une surface bidimensionnelle, la métaphore à double couche fournissait une coordonnée, et la métaphore à une seule couche additionnelle donnait la seconde, permettant de fixer l'interprétation sur la surface. C'est pourquoi cette métaphore à une seule couche fut appelée « coordonnée de sens ». La coordonnée de sens, prise indépendamment, était inutile. C'était une fois combinée avec la métaphore à double couche qu'elle permettait de lever le flou du langage littéraire. « Un système subtil !» siffla d'admiration à un expert des renseignements du CRD. Les membres du comité félicitèrent Cheng Xin et A.A. Cette dernière, qui avait jusqu'ici subi les regards méprisants de ses collègues, voyait aujourd'hui sa position au sein du CRD largement réévaluée. Mais les yeux de Cheng Xin se mouillèrent. Elle pensait à Yun Tianming. Cet homme qui... dans cette longue nuit spatiale, luttait seul au sein d'une société inconnue, à la fois intrigante et dangereuse. Malgré tous les dangers, il avait transmis ce message à l'humanité. Elle imagina l'énergie mentale qu'il avait dû déployer pour concevoir un tel système métaphorique, et comment il avait dû, dans une solitude s'étalant sur bien des années, créer plus d'une centaine de contes afin de cacher avec une grande minutie ces informations dans trois d'entre eux. Trois siècles plus tôt, c'était une étoile qu'il avait donnée à Cheng Xin. Aujourd'hui, c'était un espoir qu'il offrait à l'humanité. Le travail de décryptage des histoires se déroula par la suite de façon beaucoup plus concluante. Outre l'aiguillage permis par la découverte du système métaphorique de Yun Tianming, les membres du CRD s'accordèrent sur un point, néanmoins improuvable. le message décrypté étant lié à la stratégie d'évasion hors du système solaire, le reste du rapport devait donc être lié à la déclaration de sécurité cosmique. Mais on découvrit vite qu'en comparaison avec les premières informations décryptées, le reste des messages contenus dans les trois histoires était beaucoup plus complexe. Lors de la réunion suivante, le président du CRD apporta un parapluie qu'il avait spécialement fait fabriquer pour cette occasion, le même que celui du peintre Ahmed Terré. De couleur noire, il était composé de 8 baleines, à l'embout desquelles étaient suspendues des petites billes de pierre. Peu de gens aujourd'hui avaient une idée précise de la façon de se servir de cet objet. Pour s'abriter de la pluie, on utilisait maintenant un appareil appelé « bouclier anti-pluie ». De la taille d'une lampe de poche, il soufflait l'air au-dessus de son utilisateur afin d'écarter la pluie. La plupart avaient bien sûr connaissance d'un tel objet, ils en avaient déjà vu dans les films, mais peu étaient ceux à en avoir vu en vrai. Ils étudièrent et manipulèrent le parapluie avec curiosité, remarquant que, comme dans l'histoire, il ne pouvait rester ouvert que si on le faisait tourner grâce à la force centrifuge. Le ralentissement ou l'accélération du geste entraînait le déclenchement des alarmes correspondantes. La première chose que tous remarquèrent était qu'il était très fatigant d'agiter ainsi le parapluie, et ils étaient impressionnés que la nourrice ait pu reproduire ce geste toute une journée durant. A.A. se saisit aussi du parapluie et le fit tourner pour l'ouvrir. Mais son poignet n'était pas assez large et la toile du parapluie s'affaissa, déclenchant un chant d'oiseaux. Chung Sin n'avait pas quitté le parapluie des yeux depuis que le président du CRD l'avait ouvert au début de la réunion. Elle cria à A.A. « Ne t'arrête pas !» A.A. accéléra la cadence et le chant d'oiseaux disparut. « Encore plus vite ?» fit Chung Sin, toujours en observant le parapluie. A.A. fit tourner le parapluie de toutes ses forces, et sa vitesse excessive provoqua un sifflement pareil à celui du vent. Chung Sin lui demanda de ralentir jusqu'à ce que le chant d'oiseau résonne à nouveau, puis de répéter la même opération plusieurs fois.
« Ce n'est pas un parapluie !» s'écria Chung Sin en pointant l'objet en train de tourbillonner. « Je sais ce que c'est !»
Bi Yunfeng, qui se tenait à côté d'elle, hocha la tête.
« Moi aussi, j'ai compris !»
Puis il se tourna vers le troisième individu originaire de l'ère commune présent dans la salle, Cao Bin.
« C'est quelque chose que nous sommes les trois seuls à pouvoir connaître !»«
En effet !» ajouta Cao Bin, qui regardait avec enthousiasme le parapluie.
« Mais même à notre époque, ce n'était plus très courant !»
Plusieurs responsables d'unité dévisagèrent ces trois êtres d'un autre temps. Les autres avaient le regard figé sur le parapluie. Tous étaient à la fois perplexes et pleins d'attente.
« Un régulateur à boules pour machine à vapeur, » dit Chung Sin.
« Qu'est-ce ? Un genre de circuit de contrôle ?» demanda quelqu'un.
Bi Yunfeng secoua la tête.
« Il n'y avait pas encore d'électricité quand cet objet a été inventé. »
Cao Bin prit la parole.
C'est un dispositif apparu au XVIIIe siècle. Il permettait de réguler la vitesse de rotation d'une machine à vapeur. Un régulateur à boules se composait principalement de 2 à 4 bras équipés à leurs extrémités d'une boule en métal et d'un axe de rotation central un peu comme ce parapluie, à ceci près que les baleines sont plus nombreuses. La rotation était permise grâce à la machine à vapeur. Quand la rotation était trop rapide, les poids métalliques écartaient les bras de l'axe de rotation par effet centrifuge. Les boules ouvraient ainsi une soupape qui laissait s'échapper de la vapeur. La pression de la chaudière baissant, la vitesse diminuait. Quand la vitesse de rotation était au contraire trop lente, les bras se rapprochaient en raison du poids des boules et de la diminution de la force centrifuge. La soupape se fermait, ce qui augmentait l'admission de vapeur et donc la vitesse de la machine. C'était le tout premier système de contrôle automatique industriel. On comprit donc que le parapluie constituait le premier niveau d'une métaphore à double couche. Mais contrairement au voilier à savon, le régulateur à boules ne semblait pointer vers aucune métaphore concrète, de sorte que la deuxième métaphore pouvait être interprétée de bien des manières. Toutefois, deux éléments paraissaient émerger. Un contrôle automatique de contre-réaction
et une vitesse constante. Les experts décrypteurs du CRD commencèrent donc à chercher la coordonnée de sens correspondant à cette métaphore à double couche, et ils la trouvèrent vite. Le prince eau profonde. La taille du prince ne changeait pas, quelle que soit la distance de l'observateur. Plusieurs interprétations pouvaient être faites, dont deux semblaient évidentes. Il figurait un système de transmission d'informations dont le signal ne s'atténuait pas malgré la distance, ou une quantité physique restant stable dans n'importe quel référentiel. En comparant ces interprétations avec celles suggérées par le parapluie, on comprit immédiatement quelle était la bonne combinaison. Une vitesse demeurant constante dans n'importe quel référentiel. Cela faisait clairement référence à la vitesse de la lumière. De manière inattendue, les experts du CRD trouvèrent une autre coordonnée de sens qui vint confirmer la métaphore du parapluie. C'est à base de ces bulles que sont faits les savons. Il est toutefois très difficile de les recueillir car elles volent très vite dans le vent. Seuls les chevaux les plus rapides du pays sont en mesure de rattraper les bulles des mousseux. Lorsque les mousseux crachent leurs bulles, les artisans savonniers sautent sur leurs montures et galopent derrière elles, les attrapant avec un mince filet de gaz. Les bulles des mousseux n'ont presque aucune masse. C'est à cela qu'on reconnaît les authentiques savons de Herxingen-Mosiken. Ils ont le poids d'une plume. Le plus rapide, sans masse. C'était une métaphore à une seule couche, on ne peut plus clair. Une allusion à la lumière. Aussi, sur la base de ces indices, le parapluie offrait donc une métaphore de la lumière ou de la vitesse de la lumière. Quant à la capture des bulles des mousseux magiques, on envisageait deux interprétations possibles, la collecte de l'énergie de la lumière ou la réduction de la vitesse de la lumière. Les experts considéraient que la première des deux interprétations n'avait pas grand-chose à voir avec les visées stratégiques de l'humanité, et on accorda une attention particulière à la deuxième interprétation. Malgré le flou de ce message, les experts commencèrent à débattre de ce qu'impliquait la deuxième interprétation. Ils s'interrogèrent sur les relations entre la réduction de la vitesse de la lumière et la déclaration de sécurité cosmique. Imaginez que l'on puisse ralentir la vitesse de la lumière dans le système solaire, disons à l'intérieur de l'orbite neptunienne et de la ceinture de Kuiper. Nous pourrions générer un effet observable à des distances lointaines, mesurable à l'échelle cosmique. L'idée était particulièrement stimulante. Mais en quoi cela constituerait-il une déclaration de sécurité? En imaginant par exemple que l'on puisse réduire d'un dixième la vitesse de la lumière dans le système solaire, comment cela pourrait-il prouver que nous sommes inoffensifs? C'est simple. Si les humains possèdent des vaisseaux permettant d'aller à la vitesse luminique, le temps qu'il leur faudra pour s'échapper du système solaire sera un dixième de fois plus long. Mais 10% reste insuffisant. Si l'on veut vraiment prouver à l'univers que nous sommes inoffensifs, ralentir la vitesse de la lumière d'un dixième ne suffit pas. Il faut qu'elle soit de 10% sa valeur originelle, ou bien un centième, de manière que les observateurs puissent témoigner que nous sommes à l'intérieur d'une zone tampon de laquelle il faudrait énormément de temps avant de sortir. Cela renforcerait donc le sentiment de sécurité de celui qui observerait la civilisation du système solaire. Pour atteindre ce but, même un millième de la vitesse de la lumière serait encore insuffisant. Réfléchissez. Même à une vitesse de 300 km par seconde, nos appareils pourraient s'échapper dans une contrainte de temps acceptable. Par ailleurs, si les humains sont en mesure de modifier des constantes physiques dans un rayon de 50 unités astronomiques dans l'espace, cela reviendrait aussi à déclarer à l'univers que notre civilisation maîtrise déjà une technologie très avancée. Ce ne serait pas une déclaration de sécurité, mais de menace. Grâce à la métaphore à double couche du parapluie, ainsi qu'aux deux coordonnées de sens fournies par le prince eau profonde et les mousseux magiques, on pouvait désormais déterminer une orientation générale, mais aucune stratégie précise. La métaphore n'était déjà plus bidimensionnelle, mais tridimensionnelle.
On se demanda s'il n'existait pas d'ailleurs une troisième coordonnée de sens. Les experts sondèrent sans relâche les textes pour chercher cette coordonnée, mais ils ne trouvèrent aucune trace de son existence. Ce fut alors qu'on déchiffra l'étrange toponyme de Erxingen-Mosiken. Une unité de travail en linguistique avait été créée au sein du comité pour déchiffrer ce terme. Elle comptait notamment dans ses rangs un linguiste nommé Palermo, spécialiste de linguistique diachronique. Son intégration dans l'équipe s'expliquait en partie par l'étendue de son domaine d'expertise. Il ne s'intéressait pas à une seule famille de langues, mais maîtrisait parfaitement plusieurs langues anciennes, issues à la fois d'Orient et d'Occident. Mais, comme les autres, Palermo demeurait perplexe face à ce mot. Aucune de ses recherches menées au sein du CRD n'avait débouché sur un indice tangible. Et ce fut d'ailleurs à la chance et non à son expertise de linguiste qu'il dut son décryptage du mot « Erxingen-Mosiken ». Un matin, à son réveil, la petite amie de Palermo, une jeune blonde originaire de Scandinavie, lui avait demandé s'il avait déjà visité son pays natal. « La Norvège ? Non, jamais, » avait répondu Palermo. « Alors comment se fait-il que tu aies répété ces deux vieux toponymes dans tes rêves ?»«
Quels toponymes ?»«
Elsegen et Mosken. » Sachant que sa petite amie n'était pas au fait de ses activités au sein du comité de renseignement et de décryptage, Palermo s'était étonné que ces deux mots sortent de sa bouche. Il avait souri en hochant la tête.
« C'est en un seul mot. Erxingen-Mosiken. En sectionnant différemment les syllabes, je suis sûr qu'on peut obtenir encore d'autres noms de lieux.
Et moi, je te dis que les deux endroits se trouvent en Norvège.
Et alors, simple coïncidence ?
Les Norvégiens d'aujourd'hui ne connaissent pas non plus ces noms. Ils sont anciens, ils ont été remplacés. Si je les connais, c'est simplement grâce à mes recherches sur l'histoire de la Norvège. Tous les deux se trouvent dans le comté de Nordland.
Écoute, chérie, c'est un hasard, rien de plus. On peut couper ce mot n'importe comment.
Tu as fini, oui. Je suis sûr que tu sais que Elsegen est le nom d'une montagne et Mosken, celui d'une petite île de l'archipel des Lofoten.
Je n'en savais rien. Écoute, il existe un phénomène en linguistique où quand on se retrouve face à un mot très long, qu'on ne sait pas écrire mais uniquement prononcer, on a le réflexe inconscient de le scinder en plusieurs tronçons de syllabes et de le recomposer selon notre bon plaisir. C'est ce que tu es en train de faire.
Ce que ne lui disait pas Palermo, c'était que ce phénomène s'était présenté à de nombreuses reprises lors du travail de décryptage mené au sein des unités du CRD. Il ne prenait donc pas très au sérieux l'hypothèse de sa petite amie. Pourtant, ce qu'elle avait ensuite ajouté avait tout changé.
« Bon, d'accord. Alors je vais te dire autre chose. Elsegen est au bord de la mer, et on peut voir l'île de Mosken depuis son sommet. L'île de Mosken est l'île la plus proche de la montagne Elsegen. »
Deux jours plus tard, Chung Sin regardait depuis l'île de Mosken les falaises noires d'Elsegen. Peut-être en raison des nuages de plomb qui couvraient le ciel, la mer aussi était d'un noir d'encre. Seules quelques vagues blanches affleuraient au pied des falaises. Avant sa venue ici, Chung Sin avait entendu dire que même si l'endroit se trouvait dans le cercle arctique, l'influence des courants marins chauds rendait son climat relativement tempéré. Le vent marin la faisait néanmoins grelotter de froid. L'archipel des Lofoten, au nord de la Norvège, se composait d'îles escarpées sorties de terre à la suite de l'érosion des glaciers. Il formait une barrière de 160 km entre les fjords de l'ouest et la mer du nord, telle une muraille divisant l'océan Arctique de l'extrémité septentrionale de la péninsule scandinave. Les courants entre les îles du détroit étaient puissants. Les îles étaient naguère peuplées de quelques pêcheurs qui n'y venaient cependant qu'en pleine saison. Poissons et autres fruits de mer étant aujourd'hui majoritairement issus de l'aquaculture, toute activité de pêche en pleine mer avait disparu. L'archipel était redevenu un désert froid et quasi inhabité, sans doute à l'image de ce qu'il avait été du temps des Vikings. Mosken n'était qu'une toute petite île parmi le grand nombre de celles que comportait l'archipel, et Elsegen, une montagne désormais sans nom, car les toponymes du pays avaient changé à la fin de la grande crise. Devant la désolation sinistre de ce lieu à l'autre bout du monde, Chung Sin éprouvait toutefois une certaine sérénité. Peu de temps avant, elle avait cru que son existence avait atteint son terme, mais dorénavant, les raisons de vivre ne lui manquaient pas. À l'horizon, là où venaient s'affaler des nuages grisâtres, elle vit se profiler une brèche de ciel bleu, et les rayons de soleil qui s'échappèrent de cette fissure illuminèrent un instant ce monde frigide. Chung Sin pensa à l'une des descriptions des histoires de Yun Tianming. Ce fut comme si le peintre ayant réalisé ce merveilleux tableau saupoudrait son œuvre d'une poignée de poudre d'or. Le paysage était à l'image de sa vie. Un espoir dissimulé derrière une plaine sinistre, un ray de chaleur au cœur d'un froid glacial. Elle était accompagnée d'A.A. ainsi que d'autres experts du CRD, parmi lesquels Bi Yunfeng, Cao Bin et le linguiste Palermo. Aucun habitant ne vivait en permanence sur l'île de Mosken. Le seul occupant du moment était un homme originaire de l'aire commune de 80 ans nommé Jonas. Son visage était marqué par les traces du temps et quand Chung Sin le regardait, il lui rappelait Coupard. Quand on lui demanda si quelque chose de particulier se trouvait dans les alentours de l'île de Mosken et de la montagne d'Elsegen, le vieux Jonas pointa l'extrémité ouest de l'île. « Évidemment, regardez !» C'était un phare blanc. Ce n'était encore que la tombée du jour, mais le phare clignotait déjà en cadence. « À quoi cela peut-il bien servir ?» demanda A.A., curieuse. « Je reconnais bien les enfants d'aujourd'hui. Ils ne savent plus rien, » pesta Jonas en secouant la tête. « C'est ce qu'on utilisait dans le temps pour guider les bateaux. J'étais ingénieur pendant l'ère commune, je concevais des systèmes d'éclairage pour les phares. Beaucoup étaient encore utilisés pendant la grande crise, mais il n'y en a déjà plus de nos jours. Si j'ai construit celui-ci, c'est pour que les enfants de cette époque se souviennent de leur existence passée. » Les membres du CRD éprouvaient un vif intérêt pour le phare. Il leur rappelait le régulateur à boules de la machine à vapeur. Comme lui, cette technologie ancienne avait maintenant disparu. Mais en poussant un peu plus loin leurs investigations, ils comprirent que ce n'était pas ce qu'ils cherchaient. Ce phare venait tout juste d'être construit, et Jonas s'était servi de matériaux de construction modernes, légers et résistants. Le chantier n'avait pris qu'une quinzaine de jours. Jonas affirmait par ailleurs qu'il n'y avait jamais eu d'autre phare avant lui sur cette île. Aussi, d'un point de vue temporel, le phare n'avait donc aucun lien avec le rapport transmis par Yun Tianming. « Y a-t-il encore quelque chose de particulier dans la région ?» demanda quelqu'un. Jonas haussa les épaules dans le froid du ciel et de la mer. « Que pourrait-il y avoir d'autre ? Un satané désert froid et lugubre comme ça ? Vous savez, je n'aime pas cet endroit, mais ils ne m'ont pas autorisé à construire mon phare ailleurs. » Ils décidèrent de se rendre sur les falaises d'Elsegen pour avoir une vue panoramique sur les environs. Alors qu'ils s'apprêtaient à monter dans l'hélicoptère, A.A. eut soudain envie de s'y rendre sur la petite chaloupe du vieux Jonas. « Oh, c'est possible, bien sûr, mais, mon enfant, la mer est agitée aujourd'hui, tu vas avoir des nausées, » la prévint Jonas. En désignant la falaise, A.A. rétorqua. « Mais c'est juste à côté, je n'aurai même pas le temps d'avoir le mal de mer. » Jonas secoua la tête. « On ne peut pas passer par cette zone. Pas aujourd'hui, il faut faire un détour. Pourquoi ? À cause du maelstrom, il peut engloutir n'importe quelle embarcation. » Les membres du CRD échangèrent des regards, puis ils se tournèrent instantanément vers le vieil homme. Quelqu'un demanda. « Et vous nous dites qu'il n'y a rien de spécial dans la région ?»«
Vous savez, je viens d'ici, moi. Le maelstrom n'a rien de spécial pour nous, c'est juste un petit coin de mer. On est habitué. »
« Où est-il ? »
« Là-bas. On ne peut pas le voir de là où on est, mais on peut l'entendre. »
Le silence se fit, et ils purent en effet discerner un roulement sourd et puissant émanant de la surface de la mer, comme le bruit lointain des sabots de 10 000 chevaux au galop. L'hélicoptère pouvait observer le maelstrom du ciel, mais Chung Sin insista pour monter sur le bateau, ce qui fut accepté. Comme il n'y avait que la chaloupe du vieux Jonas sur l'île, seules 5 ou 6 personnes pouvaient aller en mer examiner le phénomène. Chung Sin, A.A., Bi Yun Feng, Cao Bin et Palermo embarquèrent donc dans la chaloupe, tandis que les autres prirent l'hélicoptère. Ballotté par les flots, l'embarcation s'éloigna de l'île de Mosken. Le vent marin était de plus en plus froid et de plus en plus violent, et les embruns salés ne cessaient de battre les visages. Dans la lumière déclinante du jour, la surface était d'un gris sombre, étrange et énigmatique. Le grondement s'intensifiait à mesure de leur avancée, mais ils ne voyaient toujours pas le maelstrom.
« Oh, je me souviens !»
cria soudain Cao Bin dans le vent. Chung Sin se souvenait aussi. Elle avait d'abord cru que Yun Tianming avait appris l'existence de cet endroit grâce aux intellectrons, mais la réalité était beaucoup plus simple.
« Edgar Allan Poe !»
lâcha Chung Sin.
« Comment ? Qui ça ? Un romancier du 19e siècle !»
Le vieux Jonas prit la parole.
« C'est vrai, Poe a écrit une nouvelle sur le Moskstromen, le maelstrom de Mosken. Je l'ai lu quand j'étais jeune. Bon, il en a beaucoup rajouté, je me souviens qu'il parlait d'un mur d'eau faisant un angle de 45 degrés. C'est loin d'être aussi raide que ça. »
La littérature écrite avait disparu depuis un siècle. La littérature et les auteurs existaient toujours, mais la narration faisait désormais appel aux images numériques. Les romans écrits classiques étaient considérés comme des antiquités. Après le Grand Ravin, beaucoup d'œuvres d'écrivains anciens avaient été perdues, parmi lesquelles celle d'Edgar Allan Poe. Le grondement du maelstrom était assourdissant.
« Où est-il ? » demanda quelqu'un.
Le vieux Jonas pointa la mer.
« Sous la surface ! Regardez cette ligne ! Il faut la franchir si l'on veut voir le maelstrom !»
C'était une bande de vagues ondulantes dont les sommets écumeux dessinaient un arc s'étirant dans le lointain.
« Eh bien, franchissons-la !»
osa Bi Yun Feng.
« Cette ligne marque la frontière entre la vie et la mort. Une fois franchie, nous ne pourrons plus revenir !»
dit Jonas en le regardant.
« Combien de temps tournent les bateaux avant d'être aspirés par le tourbillon ?»« De 40 minutes à 1 heure !» « Dans ce cas, ça ne fait rien. Nous serons secourus par l'hélicoptère. Mais mon bateau, nous vous dédommagerons en vous en rachetant un autre. Ce sera toujours moins cher qu'un savon !»
lança soudain A.A. sans que Jonas comprenne à quoi elle faisait référence. Jonas dirigea prudemment le bateau vers la ligne de vagues. Le bateau tangua violemment avant de se stabiliser comme s'il était à présent saisi par une force invisible qui l'imbriquait dans une sorte de rail sous-marin, le long duquel il glissait dans la même direction que les vagues.
« Le bateau a été attrapé par le maelstrom ! Oh bon Dieu, c'est la première fois que je le vois d'aussi près !»
cria Jonas. Le maelstrom se révélait à eux comme s'il l'observait depuis le haut d'une montagne. Ce gigantesque renfoncement de la forme d'un entonnoir avait environ 1 kilomètre de diamètre. Ses parois liquides n'étaient pas aussi raides que les avait décrites Poe, mais elles devaient tout de même faire 30 degrés. La surface de ces murs d'eau était à la fois dense et glissante, comme celle d'un corps solide. Le bateau venant tout juste de pénétrer dans les frontières du tourbillon, sa vitesse de rotation n'était pas encore très grande, mais elle augmenterait à mesure qu'il se rapprocherait de l'œil du maelstrom. Un mugissement terrifiant s'échappait du fond de ce petit trou, là où la vitesse de rotation était la plus élevée. De ce bruit émanait une puissance et une folie qui semblaient capables de tout écraser et de tout aspirer.
« Je suis sûr que nous pouvons en sortir !» « Longez la tangente à vitesse maximale !»
cria A.A. à l'adresse de Jonas. Ce dernier s'exécuta. Le vrombissement du moteur électrique de la chaloupe parut être un simple bourdonnement de moustiques à côté du grondement du maelstrom. La chaloupe accéléra pour se rapprocher de la ligne d'écume, et on crut un instant qu'elle parviendrait à s'extraire du tourbillon. Mais, perdant de la vitesse, elle pivota et s'affaissa,
comme un caillou retombant après avoir atteint le sommet de sa trajectoire parabolique. Ils réessayèrent plusieurs fois, mais à chacune de leurs tentatives, ils s'engouffraient un peu plus dans le maelstrom.
« Je vous l'avais dit, cette ligne, c'est la porte de l'enfer. Aucun bateau ordinaire ne peut imaginer en sortir une fois qu'il l'a franchi, »
dit Jonas. La chute de la chaloupe était tellement amorcée qu'on ne voyait plus ni la ligne d'écume ni la surface de la mer. Derrière eux se dessinait l'arête d'une montagne marine, et ils ne voyaient son sommet mouvant que de l'autre côté du maelstrom. Tous tremblaient à l'idée d'être capturés par une force contre laquelle il était vain de résister. Seul l'hélicoptère qui tournait dans le ciel au-dessus d'eux leur apportait un peu de réconfort.
« Les enfants, c'est l'heure de dîner !»
lança le vieux Jonas. Le soleil ne s'était pas encore couché derrière les nuages, mais c'était l'été dans le cercle arctique et il était déjà plus de 21 heures. Jonas sortit une grande morue de la cale, déclarant qu'il l'avait pêchée le jour même. Puis il déposa le poisson dans un grand plateau en métal. Il sortit 3 bouteilles d'alcool et versa le contenu d'une bouteille sur la morue, avant d'allumer son briquet pour l'enflammer. Le poisson brûla à peine 5 minutes, puis le vieux Jonas enfourna sa main dans le poisson brûlé pour en manger la chair et certifia que c'était une recette locale. Tous mangèrent alors de son poisson en buvant de l'alcool et en jouissant du spectacle grandiose offert par le maelstrom.
« Mon enfant, je te reconnais, tu es la porte-épée, n'est-ce pas ?» lança Jonas à Chung Sin. « Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est sûrement pour une mission importante. Si je peux vous donner un conseil, restez serein en toutes circonstances. » Puisqu'aucun de nous ne pourra échapper à l'apocalypse autant que nous profitions du présent.
« Seriez-vous aussi calme sans cet hélico au-dessus de nous ?»
demanda A.A.
« Oh oui, mon enfant. Oui, j'en suis sûr. Je n'avais que 40 ans quand je suis tombé gravement malade durant l'ère commune, mais je suis resté parfaitement tranquille. Je n'ai pas prévu de me faire hiberner. » « Ce sont les médecins qui m'ont hiberné à mon insu pendant que j'étais dans le coma. Je me suis réveillé à l'ère de la dissuasion. J'ai d'abord cru que je m'étais réincarné, puis j'ai compris que l'éternité, ça n'existe pas. La mort m'attendait juste un peu plus loin. Cette nuit où j'ai eu fini de construire mon phare, quand je l'ai regardé au loin briller sur la mer, tout est soudain devenu clair. La mort est le seul phare qui reste à jamais allumé. Peu importe où tu navigues, tu finis toujours par te rendre dans la direction qu'il t'indique. Tout a une fin. Seule la mort est immortelle. »
Il y avait déjà 20 minutes qu'ils étaient entrés dans le maelstrom, et la chaloupe avait glissé à 1/3 de la hauteur du mur d'eau. L'angle d'inclinaison de la coque était de plus en plus grand, mais grâce à la force centrifuge, les passagers n'avaient pas tous roulé jusqu'à bâbord. Leur champ de vision se limitait maintenant à la paroi liquide du tourbillon. On n'en voyait même plus le sommet de l'autre côté. Ils n'osaient pas regarder le ciel. Dans le maelstrom, la chaloupe était en rotation avec le mur, ce qui la maintenait dans une position presque relative avec lui, si bien que les passagers du bateau ne ressentaient pas le mouvement du tourbillon. L'embarcation semblait collée au bord d'une bassine d'eau immobile. Mais en levant les yeux au ciel, on ne pouvait contester le mouvement effréné du maelstrom, et le ciel nuageux tournait à une vitesse étourdissante. En raison de l'augmentation de la force centrifuge, la paroi d'eau sous le bateau devenait de plus en plus glissante et solide à la manière de la glace. Le grondement qui provenait du trou de l'entonnoir du maelstrom surpassait tout autre son, couvrant même les voix des passagers. À cet instant, le soleil se montra entre les fentes des nuages, laissant pénétrer un faisceau d'or dans le tourbillon. Mais il ne parvint à illuminer qu'une partie de la paroi, ce qui fit paraître le fond de l'abysse plus sinistre encore. De la vapeur jaillissait de l'œil mugissant du maelstrom, décrivant un arc-en-ciel dans les rayons du soleil qui traversait de façon magistrale l'abîme tourbillonnant.
« Je me souviens de l'arc-en-ciel décrit par Poe. Je crois qu'il est apparu sous la lueur de la lune. Poe a écrit que c'était un pont qui reliait le temps et l'éternité !»
clama Jonas, mais personne n'entendit clairement ses paroles. L'hélicoptère vint à leur rescousse. Une échelle de corde suspendue à 2 ou 3 mètres au-dessus du bateau descendit jusqu'au pont pour permettre à tous les passagers de grimper. Puis, la chaloupe continua à faire de grands cercles au milieu du tourbillon, tandis que la morue, qui n'avait pas été terminée, continuait de scintiller d'une étincelle bleutée. L'hélicoptère demeura en vol stationnaire au-dessus du Maelstrom. Tous observèrent cet entonnoir tourbillonnant, éprouvant nausées et vertiges. Aussi, quelqu'un donna l'ordre au système de navigation de l'appareil de tourner à une vitesse similaire au Maelstrom, de manière qu'il puisse avoir l'impression que celui-ci s'était immobilisé. Mais ce fut le monde entier, en dehors du Maelstrom, qui commença à virevolter. Le ciel, la mer et les chaînes de montagnes. Le Maelstrom était devenu le centre du monde et leur sensation d'étourdissement ne s'était pas affaiblie. A.A. poussa un cri et vomit le poisson qu'elle venait d'ingurgiter. Tandis que Cheng Xin observait le Maelstrom, un autre tourbillon engloutit son esprit, fait cette fois de 100 milliards d'étoiles argentées emportées dans un gigantesque vortex né dans l'océan cosmique. Il fallait à ce tourbillon 225 millions d'années pour accomplir un seul tour, la Voie lactée. À l'intérieur, la Terre était un simple grain de poussière, et le Maelstrom de Mosken un grain sur ce grain. Une demi-heure plus tard, la chaloupe sombra au fond du Maelstrom et fut instantanément aspirée par le trou de l'entonnoir. Au cœur du grondement du Moskstromen, on entendit le faible son de sa coque mise en pièces. L'hélicoptère ramena Jonas sur l'île de Mosken. Cheng Xin lui promit qu'un nouveau bateau lui serait acheté, puis ils firent leurs adieux au vieil homme et l'hélicoptère fit cap vers Oslo, où se trouvait la chambre anti-intellectron la plus proche. Pendant le voyage, tous gardèrent le silence, plongés dans leurs réflexions, ne prenant même pas la peine d'échanger avec leurs yeux. Ce que symbolisait le Maelstrom était trop évident. Mais des questions demeuraient. Quel était le rapport entre la réduction de la vitesse de la lumière et un trou noir? En quoi les trous noirs étaient-ils liés à la déclaration de sécurité cosmique? Un trou noir ne pouvait pas changer la vitesse de la lumière. Il était tout au plus capable de changer sa longueur d'onde. Si on pouvait réduire la vitesse de la lumière dans le vide à 1/10, 1/100, voire 1/1000 de celle-ci, soit respectivement 30 000, 3 000 et 300 km par seconde, quel rôle pourraient jouer les trous noirs? C'était à première vue un mystère. Il y avait ici un fossé que des êtres d'une intelligence ordinaire auraient eu du mal à franchir, mais ce groupe était constitué de l'élite intellectuelle de l'humanité, et en particulier le physicien Cao Bin, qui était doué pour résoudre les problèmes les plus ardus. Riche de sa traversée de 3 siècles, il savait quelque chose que les autres ignoraient. Il y avait bien longtemps, durant l'ère commune, une unité de recherche avait réussi dans un laboratoire à ralentir la vitesse de la lumière à travers un médium à 17 mètres par seconde, soit une vitesse encore inférieure à celle d'un vélo. Bien entendu, la nature de ce projet était bien différente de celui qui consistait à réduire la vitesse de la lumière dans le vide, mais au moins, il n'était peut-être pas aussi fou d'imaginer ce qui allait suivre. Et si on parvenait à réduire la vitesse de la lumière dans le vide jusqu'à 1/10 000 de celle-ci, soit 30 km par seconde, y aurait-il un lien avec les trous noirs? Il ne paraît y avoir aucune différence fondamentale avec les précédentes réductions, sauf si... Attendez. 16,7, lâcha brusquement Cao Bin. La flamme qui brillait dans ses yeux alluma bientôt celle des autres passagers. 16,7 km par seconde, la 3e vitesse cosmique du système solaire. En dessous de cette vitesse, il était impossible pour un vaisseau de sortir du système solaire. Et il en était de même pour la lumière. Si l'on pouvait réduire la vitesse de la lumière dans le vide en dessous de 16,7 km par seconde,
La lumière ne pourrait donc jamais s'échapper de la gravité du Soleil et le système solaire deviendrait un trou noir. Comme rien n'excédait la vitesse de la lumière, si la lumière ne pouvait quitter le système solaire, aucun autre objet ne le pourrait non plus. En d'autres termes, rien ne pourrait s'échapper de l'horizon des événements du trou noir que serait devenu le système solaire. Devenu clos, celui-ci se couperait à jamais du reste de l'univers, et il deviendrait ainsi complètement inoffensif. Comment un observateur pourrait-il voir que le système solaire était un trou noir créé par le ralentissement de la vitesse de la lumière? C'était difficile à dire, mais il existait deux possibilités. Dans l'œil d'un observateur primitif, le système solaire aurait tout bonnement disparu. Et dans celui d'un observateur technologiquement plus avancé, le trou noir artificiel pourrait être détecté, mais il comprendrait immédiatement que la civilisation emprisonnée à l'intérieur ne présentait plus aucune menace. Il était une étoile lointaine, un point lumineux vaguement visible dans la nuit, et tous ceux qui la regardaient d'un œil pouvaient dire « Oui, cette étoile est sûre ». Cette chose autrefois jugée impossible paraissait aujourd'hui possible. C'était la déclaration de sécurité cosmique. La mère des Tao-Tiers. Ils pensèrent au royaume sans histoire à jamais coupé du reste du monde. Cette coordonnée de sens n'était en réalité plus nécessaire car ils avaient déjà compris ce qui se cachait derrière cette métaphore. Plus tard, les hommes appelleraient ce trou noir créé par le ralentissement de la vitesse de la lumière un champ noir. Par comparaison avec les trous noirs dans lesquels la vitesse de la lumière resterait inchangée, un champ noir aurait un rayon plus grand que celui de Schwarzschild et l'intérieur ne serait pas constitué d'une singularité gravitationnelle, mais d'une région large et ouverte. Lorsque l'hélicoptère se fut envolé au-dessus des nuages, il était plus de 23 heures, et le soleil se couchait lentement à l'ouest, ne laissant plus qu'un mince arc visible. Baigné dans la lumière ocre de ce crépuscule nocturne, les passagers de l'appareil étaient en train d'imaginer la vie dans un monde où la vitesse de la lumière aurait été réduite à 16,7 km par seconde, un monde où les rayons du couchant leur parviendraient à une vitesse aussi lente. On avait reconstitué à présent la majeure partie du puzzle édifié par Yun Tianming. Seule une pièce était manquante, les peintures de chat d'aiguille. Les experts échouaient à décrypter la métaphore à double couche qui se dissimulait derrière cet élément. Certains supposaient qu'il ne constituait qu'une coordonnée de sens de plus pour le maelstrom de Mosken, peut-être comme un symbole de l'horizon des événements du champ noir. En effet, de la perspective d'un observateur, tout objet pénétrant à l'intérieur de cet horizon serait capturé à jamais, comme sur une peinture. Mais la plupart des experts du comité ne partageaient pas cette opinion. La signification du maelstrom était suffisamment claire et Yun Tianming avait déjà utilisé la mère des Tao-Tiers pour confirmer cette interprétation. Il ne lui aurait pas été nécessaire d'ajouter une autre coordonnée de sens. On ne parvint pas à déchiffrer cette métaphore. Comme les bras manquants de la Vénus de Milo, les peintures de chat d'aiguille devinrent à jamais une énigme. Et pourtant, cet élément servait de fondation pour les trois contes. Et il décrivait une cruauté élégante, une violence raffinée et un effondrement somptueux qui dissimulait peut-être le plus grand des secrets, celui de la vie et de la mort.